Donc, comme vous en avez presque l'habitude maintenant, hein, il s'agit pour nous d'être dans, non plus simplement dans le débat d'idées, bien que évidemment nos intervenants savent les manipuler et en ont, hein, mais il s'agit aussi de au-delà des doctrines, hein, de discuter des solutions plus concrètes, hein, pour combattre la pauvreté. Donc je laisse à Henrik le soin de présenter nos intervenants, que je remercie d'être venus. Merci.
Merci, merci pour ces applaudissements convaincants.
Donc, qui aide à la confiance.
Un des défis, ça va être de rester réveillé, de ne pas s'endormir. Et j'ai demandé à nos intervenants de réveiller les gens. Voilà. Donc, s'ils sont ennuyants, vous endormez et puis on va. Voilà. Mais la question de cet après-midi, elle est impossible. Quel modèle social? On ne va pas être d'accord sur les termes déjà. C'est quoi un modèle social? Tout ce qu'on fait en société pour, par exemple, pour parvenir aux besoins des plus nécessiteux, pour résoudre nos problèmes de santé, la protection sociale, donc. Tout ce qu'on fait, ça relève pas que d'un modèle pensé et perçu comme tel. On se réfère souvent en 1945 avec le général de Gaulle et avec d'ailleurs la participation des communistes dans un premier temps pour fonder quelque chose qui relève d'un modèle et que nous appelons le modèle social français. Mais ce modèle a évidemment évolué et il continue à évoluer. Moi-même, avec mon accent bizarre, avec mon nom bizarre, je vous dis que je viens d'un pays qui a un modèle. Je suis suédois, et donc le modèle suédois, ça c'est un modèle, c'est le modèle des modèles, le modèle auquel se référaient notamment beaucoup de dirigeants français, et pas que de gauche, mais surtout de gauche, parce que notre modèle, il est l'œuvre et le fruit du Parti social-démocrate qui est resté au pouvoir pendant une cinquantaine d'années en Suède. Donc le modèle social, je disais pour rigoler, on peut parler de ça. Je suis un fruit de ce modèle social. Mais ça, c'est le sujet. Donc on va essayer de cerner un peu qu'est-ce qu'on peut proposer à vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous n'allez pas, il faut pas que vous vous endormiez, quoi. Donc il faut pas. On va parler de quelque chose qui relève plutôt du catholicisme, d'accord. C'est notre angle qu'on a trouvé pour cet après-midi, sachant que l'Église, avant qu'on l'appelle l'Église catholique, même si elle était catholique, avant qu'on l'appelle catholique, c'est avant les schismes, avant la réforme, il y avait déjà des hôpitaux, il y avait déjà des universités. Ça vient de l'Église, ça. L'idée même de s'occuper des pauvres, ça vient pas de l'État français. Ça vient pas de l'État. Ça vient pas des rois. Ça vient de l'Église. Donc, on a quelque chose à dire là-dessus, a priori. Pardonnez-moi d'être un peu long, hein, donc je pense que j'avais absolument rien à dire pour introduire les intervenants, mais c'est un sujet évidemment passionnel. Vous allez pouvoir partager cette passion avec nous. Après, il y aura des échanges, etc. Les intervenants sont, pour deux d'entre eux, dans l'action sociale. On peut pas faire plus concret. On peut pas faire davantage dans le faire que deux de nos intervenants. Pierre Durieux, d'abord, qui est secrétaire général de l'association Lazare. Il nous parlera tout à l'heure de ce que c'est Lazare, ce que fait Lazare. Il s'agit notamment du soin, de l'aide apportée aux plus nécessiteux, Pierre, mais tu nous diras tout à l'heure davantage là-dessus. J'ai à extrême gauche, si vous voulez bien, le délégué diocésain du secours catholique pour le Var, Benjamin Rosier. C'est quelqu'un qui vient d'ici, donc enfin qui habite ici, mais depuis peu de temps, parce qu'avant il était journaliste comme moi à RCF, mais aujourd'hui il est dans le concret. Bravo à lui. Et il nous fera part, je pense aussi, de pas seulement de son expérience, mais de ce qu'il pense être quelque chose qu'il tire de son expérience, qui peut être utile au niveau national. Le Secours catholique étant la plus grande ONG de ce pays. C'est pas une petite assoce de gentils cathos. Hein. C'est la plus grande ONG de ce pays. C'est un acteur majeur. Acteur majeur pour d'abord évidemment au service des plus pauvres, mais aussi c'est un acteur majeur quand il s'agit de la réflexion. L'État se renseigne auprès de Secours catholique. Tout à l'heure je ferai une petite provocation pour voilà, mais c'est pas une petite association, voilà. À ma droite, j'ai Philippe de Saint-Germain, qui lui n'est pas forcément dans l'action, il est plutôt dans la formulation des théories, il se connaît bien en doctrine sociale de l'Église, journaliste, et je vais commencer par lui donner la parole, parce que je voudrais qu'il nous cadre un peu le sujet. Je veux qu'il parle de quelque chose qui est très catholique, très chrétien, qui est le principe de subsidiarité. C'est quelque chose de fondamental. Alors moi, quand j'entends principe de subsidiarité, j'entends que une décision, ça se prend au niveau pertinent. Ça se prend au niveau où les comment dire, ceux qui sont concernés par la décision peuvent se référer à quelque chose qui peut toucher à la limite. C'est un principe qui a été qui est souvent cité comme principe fondateur de la construction européenne. Alors on s'est un peu éloigné, dirait certains, de ce principe pour la construction européenne. Mais ça, c'est un héritage de la doctrine sociale de l'Église. Donc, il nous parlera de ça. Et puis, il dira aussi d'où il parle. Je voudrais que chacun aussi parle un peu d'eux. Donc, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Ce genre de choses. Ça, c'est important aussi.
Bon, merci, Henrik. Alors d'où je parle, puisqu'il faut commencer par la dernière question, je suis marié, j'ai trois enfants, j'habite en région parisienne, j'ai un pied en province, la Normandie pour ne pas la citer, ce qui me donne aussi un autre regard sur le monde, et je travaille comme journaliste chrétien depuis longtemps, beaucoup sur les questions sociales, de société en général, depuis quelques temps, en particulier pour le site Aletheia, ce qui me vaut le plaisir et l'intérêt de rencontrer des observateurs de la société française que je sollicite pour apporter leur point de vue, leur analyse, leur décryptage des événements qui font l'actualité, avec un regard chrétien, mais chacun avec son domaine de compétence. Et c'est un petit peu à ce titre-là que j'ai été sollicité pour intervenir aujourd'hui. Alors je vous dis tout de suite, moi, la refonte du modèle social, je me sentais pas du tout qualifié pour avoir un avis là-dessus. J'ai une petite expérience comme catholique engagé dans un certain nombre d'associations auprès du monde dit de la pauvreté, des pauvres, notamment des jeunes en voie de réinsertion, ce qui m'a paru intéressant dans les thématiques qui ont été abordées ces jours-ci, notamment avec ce point d'appui dans le message des Gilets jaunes, c'était l'illustration d'une crise profonde de la société française que l'on peut définir comme étant une crise de la subsidiarité. Ça a été peu évoqué aujourd'hui dans cette analyse du phénomène dit des gilets jaunes, notamment dans sa première expression, parce qu'après, évidemment, il y a eu des dérapages, des manipulations, une évolution qui s'est éloignée du premier message. Et on m'a dit, ok, banco, effectivement, le principe de subsidiarité, ça peut être un éclairage particulier pour nous aider à apporter des éléments de réponse, de réflexion sur cette refonte nécessaire du modèle social français. Les gilets jaunes, alors j'étais pas là hier quand vous avez abordé avec des observateurs de terrain très très compétents et très autorisés le phénomène, donc j'espère ne pas redire ce qui a été dit. Je sais pas si vous avez réfléchi ou si on vous a fait réfléchir ou si vous avez des réponses sur le symbole même du gilet jaune. Je sais pas, ça a été évoqué? Oui? Non? Oui? Bon. Je le redis brièvement, c'est utile pour ma démonstration. Le gilet jaune, c'est celui qui se manifeste en disant « j'existe ». Voilà. J'existe. Je suis, tout simplement. Je suis. Donc, je suis dans la rue. Je suis dans une situation éventuellement vulnérable, dangereuse. Mais je suis. C'est le premier message. C'est le seul message. Le cas échéant, ça peut vouloir dire « protégez-moi ». Faites attention, ralentissez, protégez-moi. Puis un troisième message, qui est plus trivial, vous me pardonnerez, c'est la révolte fiscale à l'origine des gilets jaunes qui le dit, « cessez de nous emmerder ». Vous connaissez l'expression, c'est attribué à... je crois vérifié par le président Pompidou, qui à son jeune secrétaire d'État Jacques Chirac, qui lui a dit, mais qui lui présentait une liste de décrets d'application absolument indispensable, cessez d'emmerder les Français. Et il terminait en disant qu'il faut libérer le pays. Déjà à son époque, c'était en 1966. Et il me semble que les gilets jaunes, dont les premiers acteurs étaient non pas des miséreux à la rue, mais des gens qui travaillent, c'est la France qui se lève tôt, ou qui s'est levée tôt toute sa vie, qui s'est exprimée, et qui a du mal à joindre les deux bouts, et qui dit simplement « ça suffit ». Pierre-Yves Gomez, l'économiste fondateur du parcours Zaché, que certains d'entre vous connaissent peut-être, a fait remarquer que, puisqu'il s'agissait notamment de l'augmentation de la taxe sur le diesel, que 98% des véhicules utilitaires en France roulent au diesel et qu'il y a seulement que 2% des véhicules utilitaires proposés par les grands constructeurs en France qui sont à essence. Donc la population des petits artisans, des commerçants, des agriculteurs, dont le véhicule est l'outil de travail, était vraiment piégé. Et alors, au bout d'un moment, la coupe déborde et on va dans la rue. Qu'ont voulu dire de façon plus implicite cette révolte des gilets jaunes, c'est que l'État ne fait plus son job. Là où il devrait servir et protéger, il emmerde les Français. Il est trop fort là où il doit être faible et il est trop faible là où il doit être fort. Et il n'y a plus de confiance aujourd'hui dans les décideurs, dans ceux qui décident quelle doit être la norme. Et nous, de notre part, de façon un peu plus approfondie, ce que l'on constate, c'est que la société française est totalement fragmentée, totalement atomisée, et que les gens qui sont descendus dans la rue sont des gens qui ne sont plus défendus, qui ne sont plus représentés, a fortiori par les élus dont ils sont en principe qui sont en principe l'expression du peuple français. Alors j'ai une hypothèse qu'on recoupe à travers un certain nombre d'analyses, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle et que ce que la Révolution française, le modèle social de la Révolution française avait voulu, c'est-à-dire un État tout puissant expression de la volonté populaire d'une part, et puis un individu souverain d'autre part, arrive à son achèvement, et que tous les corps intermédiaires, à travers lesquels la personne humaine s'exprime de façon harmonieuse, épanouie et parfaite, pour reprendre le discours de ce matin, les corps intermédiaires qui ont survécu pendant 2 siècles à la volonté idéologique de les supprimer, voir la loi Le Chapelier pour les historiens, les corps intermédiaires finissent par disparaître peu à peu, et le meilleur exemple aujourd'hui, quand vous voyez toutes les attaques qu'il y a contre la famille, mais dans sa substance elle-même, dans sa réalité, un homme et une femme aujourd'hui ça n'existe plus. Un père et une mère, ça ne doit plus exister. Enfin, en tout cas, il y a un mouvement idéologique très puissant qui est relayé complaisamment par les médias, qui va dans ce sens-là. Aujourd'hui, donc, les corps intermédiaires, les sociétés naturelles qui constituent la société politique, disparaissent peu à peu. Et le citoyen de base n'est pas simplement le miséreux qui est déjà à l'abandon, mais le citoyen qui bosse, qui travaille avec les moyens qui sont les siens et qui trouve l'estime de lui-même dans son travail, se retrouve méprisé parce qu'il est invisible et qu'il n'existe plus. Et qu'il n'a qu'un seul droit, c'est celui de payer. Parce que là, en l'occurrence, on sait toujours où trouver l'argent. Le constat que l'on peut faire, qui avait d'ailleurs été déjà un peu anticipé à sa manière par Tocqueville au XIXe siècle, c'est que il avait senti la montée en puissance des gouvernements issus de la Révolution, voulant faire le bonheur du peuple malgré lui, dans son dos, en décidant ce qui est la norme. Donc ça, on y est aujourd'hui. Et le constat que l'on peut tirer, c'est que plus la gouvernance technocratique qui est maîtrisée, initiée par une société, une caste de dirigeantes, là on peut aller dans les mots de façon assez brutale, quand cette gouvernance technocratique qui décide ce qui est bien pour le peuple dans son dos sans lui demander son avis, triomphe, plus les médias organisent le spectacle du politiquement correct et plus les corps intermédiaires donc sont affaiblis, et avec eux les lieux de parole et de valorisation des invisibles. Les corps intermédiaires n'existent plus, et le peuple lui-même, supposé souverain, est méprisé. Ça nous renvoie déjà à ce que disait, puisque ça a été évoqué aussi ce matin, Platon, dans les sociétés corrompues, à travers le thumos, cette expression de l'âme qui dit à la fois le courage dans lequel l'homme, la personne, s'épanouit, s'accomplit, mais aussi le sentiment de sa dignité, son estime de soi. Quand c'est méprisé, eh ben la société explose. Et puis quand elle n'est plus soutenue, défendue, représentée, protégée par les corps intermédiaires qui constituent la société, ça explose. Alors la réponse que la doctrine sociale de l'Église apporte, je vais essayer de, je ne sais pas si je suis encore dans les temps, puisque là j'arrive quand même au cœur de mon sujet, en principe, la réponse que la doctrine sociale de l'Église apporte, c'est notamment, évidemment, on connaît l'expression de la solidarité, de la charité nécessaire, requise, bon, comme vertu, et puis comme mission prioritaire de l'État qui doit assurer la justice et la protection des citoyens, c'est notamment le principe de subsidiarité. La doctrine sociale de l'Église, en 2 mots, bon là je vais rappeler des fondamentaux, mais je pense que quelquefois ce qui va sans dire va mieux en le disant. La doctrine sociale de l'Église, c'est avant tout une vision de l'homme et de la société. C'est une anthropologie qui s'exprime à travers des principes, et des principes qui sont déjà dans la pensée de l'homme depuis les Grecs. On a parlé d'Aristote ce matin, notamment quand il s'agit de réfléchir sur l'action de l'homme en société. C'est une dynamique, mais qui est inspirée par un point de départ. Un principe est un point de départ et aussi un point d'arrivée. Quels sont les grands principes de la doctrine sociale de l'Église ? C'est d'abord le principe de la dignité de la personne humaine, qui est le socle fondateur de cette pensée sociale. Je ne développe pas le bien commun, on en a parlé ce matin, la destination universelle des biens, la subsidiarité, Et puis, la solidarité. La solidarité qui est l'expression de l'interdépendance qu'il y a entre les personnes humaines et les groupes. Ces principes, il est très important de les recevoir comme étant indissociables, inséparables. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Il n'y a pas de dignité de la personne humaine sans poursuite et acceptation d'un bien commun à la personne humaine. Il n'y a pas de dignité de la personne humaine sans destination universelle des biens, sans subsidiarité, sans solidarité. Ça, c'est quand même, c'est très important. Et notamment, bon, si l'on parle de subsidiarité, rentrons dans le cœur du sujet, je vous propose 5 points de repère pour bien comprendre ce que c'est la subsidiarité, en m'appuyant sur une définition qui n'est pas celle historique de Pie XI dans Quadragesimo Anno, qui est la deuxième grande encyclique sociale. La toute première, Novarum, avait planté le décor aussi, hein, en disant qu'il est dans l'ordre que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'État. Donc c'est constant dans l'enseignement de l'Église, et on retrouve chez les grands penseurs de la pensée sociale qui ne sont pas nés avec les encycliques du XIXe siècle, hein, puisque c'est une anthropologie, et cette anthropologie, l'anthropologie chrétienne, elle est dans l'Évangile. Bon. Mais elle puise aussi ses ressources dans la sagesse humaine, et donc par exemple aussi chez les Grecs. Une définition qui est donnée par Joseph Ratzinger, le cardinal Ratzinger, dans l'instruction dont on a parlé ce matin, « Liberté chrétienne et libération », qui date de 1986, qui est plus simple. C'est un principe selon lequel est donnée la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d'autorité compétent pour résoudre le problème. Je répète, un principe selon lequel est donnée la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d'autorité compétent pour résoudre le problème. Autrement dit, la subsidiarité, c'est le partage, la liberté qui est laissée à chaque personne d'exercer toutes les responsabilités qu'elle est capable d'assumer. Les personnes et aussi les groupes. Parce que une personne s'exprime toujours aussi à travers un groupe, c'est très important. Alors quels sont les 5 grands points de repère qui permettent de comprendre ce qu'est la subsidiarité? Le premier, c'est que cette subsidiarité s'exprime toujours dans un cadre, dans une structure sociale, dans une communauté qui se définit par ses buts. Une société, le principe structurant d'une société, c'est pas tellement c'est pas l'autorité dans la pensée sociale chrétienne et classique, même on peut dire, c'est pas l'autorité, c'est même pas son identité, mais c'est sa finalité, ses buts. Une société qui n'a pas de but commun est une société qui explose. On peut se poser la question de savoir si on est toujours dans une communauté. On a évoqué la France étant comme une communauté politique qui est l'expression d'une communauté de culture qui partage encore suffisamment de valeurs pour tendre vers un but commun. Mais quand chacun tire la couverture à soi, quand on pense la société comme une juxtaposition de minorités, on peut se poser la question de la solidité de cette communauté. Mais la subsidiarité elle-même, elle ne peut s'exprimer que dans une communauté avec un cadre. C'est pas du jaillissement spontané, c'est pas de la génération spontanée, c'est pas l'autogestion. Chacun fait ce qu'il veut, comme il pense, sous prétexte qu'il est capable d'assumer une responsabilité. Ça s'exprime toujours dans un cadre, dans une communauté qui poursuit des buts communs. C'est le premier point. Le second, c'est que cette communauté, évidemment, elle poursuit un bien commun. Je reviens pas là-dessus, on en a parlé ce matin. Le troisième point, il y a 3 sous-principes à ce principe de subsidiarité qui permettent de bien comprendre ce qu'est ce mode d'organisation de la société, expression de la dignité de la personne humaine et de l'anthropologie chrétienne, humaine, classique. C'est le principe d'autonomie responsable. La communauté s'organise toujours sur l'exercice de la liberté responsable de chacun. Chacun assumant ses responsabilités dans une relation de confiance aussi avec les autorités. Il n'y a pas d'expression de la liberté sans liberté d'assumer cette responsabilité. Le second sous-principe qui est mon quatrième repère, c'est le principe d'aide des autorités, d'où le nom subsidiarité. Subsidium, ça veut dire aide. L'échelon supérieur doit intervenir pour aider l'échelon inférieur à assumer ses responsabilités. Non pas pour se substituer à sa liberté responsable, mais pour l'aider, lui laisser les moyens d'exercer cette responsabilité. Et le dernier sous-principe, c'est le principe de suppléance. C'est quand l'échelon inférieur n'est pas en mesure d'exercer les initiatives ou les responsabilités qui permettent à la société en question de fonctionner, eh bien, l'autorité supérieure doit intervenir en suppléance. Le principe de suppléance. Pour terminer, je vous propose simplement de lire dans le texte ce que dit le compendium de la doctrine sociale de l'Église pour montrer en quoi le principe de subsidiarité est un équilibre et qui éclaire vraiment les besoins de la société d'aujourd'hui, notamment quand elle n'est plus mise en œuvre. Le principe de subsidiarité protège les personnes, je cite un, c'est dans le compendium, numéro 187, le principe de subsidiarité protège les personnes des abus des instances sociales supérieures et incite ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. Une communauté vivante, une communauté humaine n'est pas une communauté monolithique, universelle, enfin égalitaire, soumise à un seul même modèle. Chaque personne, chaque communauté, chaque composant la communauté politique dans son ensemble doit pouvoir s'exprimer parce qu'elle a quelque chose d'original à apporter. L'expérience, je cite, atteste que la négation de la subsidiarité ou sa limitation au nom d'une prétendue démocratisation, parce que on considère souvent que l'expression de la liberté de chacun et des groupes est un obstacle à la démocratie ou au bien de tous, mais ça c'est un abus, limite et parfois et même annule l'esprit de liberté et d'initiative. Autrement dit, l'épanouissement de la personne humaine est compromis quand la liberté de chacun et des groupes est sous contrôle. Certaines formes de concentration, de bureaucratisation, d'assistance, de présence injustifiée et excessive de l'État et de l'appareil public contrastent avec le principe de subsidiarité. Ça, je cite Jean-Paul II, « En intervenant directement et en privant la société de ses responsabilités, l'État de l'assistance provoque la déperdition des personnes humaines, l'hypertrophie des appareils publics animée par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses. Le manque de reconnaissance ou la reconnaissance inadéquate de l'initiative privée, du travail de chacun, et de sa fonction publique, sociale, ainsi que les monopoles concourent à mortifier le principe de subsidiarité et donc la dignité de la personne humaine. » Voilà. Après, il y a des applications qui sont proposées. On pourra y revenir dans le cadre du débat. Et puis, je crois que c'est surtout le sens de l'intervention de mes amis barbus tout à l'heure. Donc, j'en reste là pour l'instant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principe de subsidiarité, c'est l'expression d'une société libre où le niveau de responsabilité est laissé à chacun, est laissé de façon la plus libre possible, ou de s'exprimer de façon la moins contraignante possible, avec le soutien des autorités, dans la perspective d'un but commun, toujours, bien sûr, et que aujourd'hui, ce principe de subsidiarité, on pourra y revenir aussi dans le cadre du débat, qui a tendance à revenir à la mode, notamment dans le monde de l'entreprise. On en a parlé à propos de l'Europe aujourd'hui, de façon tout à fait intéressante, mais un peu faussée aussi, je terminerai là-dessus, puisqu'on a tendance à considérer le principe de subsidiarité comme un principe exclusivement de délégation, donc de haut vers le bas, alors que le vrai principe de subsidiarité fonctionne du bas vers le haut. C'est quand même tout à fait différent. Et on conçoit que dans cette perspective et dans le cadre dont on a parlé tout à l'heure, dans le cadre communautaire et personnel dans lequel on a parlé tout à l'heure, évidemment, cela induit un modèle de société tout à fait différent.
Merci, merci beaucoup, Philippe. Effectivement, vous avez permis donc de situer un peu l'intérêt que l'Église catholique, en fait, peut avoir, peut représenter pour le reste de la société. En quoi est-ce qu'on peut être utile, en quelque sorte? Alors, la question de cet après-midi, c'était quel modèle proposer, etc. Ça suppose qu'il y a un problème avec notre modèle. Je n'ai pas trop insisté dans mon introduction là-dessus, mais juste, je reviens un peu sur des choses un peu globales. Nous venons de sortir de la phase aiguë d'une crise sociale absolument majeure, donc avec la crise des Gilets jaunes. On peut avoir à nouveau se trouver prochainement dans une autre phase également aiguë, car les indicateurs sont pas bons. Notre société devient de plus en plus inégalitaire. Ça veut pas dire que les pauvres sont plus pauvres qu'avant, mais ça veut dire que les inégalités, l'écart entre les riches et les pauvres explose. Voilà, et on a dit que, par exemple, dans les milieux catholiques, on a tendance à s'embourgeoiser, etc. Et ceci explique aussi pourquoi un certain nombre de catholiques ne voyaient pas trop l'intérêt de comprendre, même d'aller à la rencontre des Gilets jaunes, parce que ce serait un problème de classe, en fait. Mais on peut avoir d'autres types de lectures là-dessus, bien sûr. Mais ce que je vous dis là, c'est que les inégalités augmentent. Elles augmentent en France, elles augmentent partout en Europe. Et partout en Europe, il y a de plus en plus de SDF. Partout en Europe, il y a de plus en plus de migrants qui n'ont rien. Et ces migrants ne sont pas des gens qui sont diplômés, etc., qui vont intégrer tout de suite le marché du travail. C'est vrai pour des besoins de main-d'œuvre occasionnel en Allemagne actuellement, mais c'est pas vrai en France, c'est pas vrai en Suède. La Suède est le pays qui accueille le plus de migrants en Europe, entre parenthèses. C'est pas l'Italie. Et en France, il y a ce sujet-là, et c'est pas du tout pour parler des migrants, hein, mais ça permet de, parce que les problèmes sont pas banals. 40 000 mineurs isolés sont arrivés en France ces dernières années, 40 000 mineurs isolés, on ne sait pas, les départements crient au secours, aidez-nous, l'État, monsieur l'État, aidez-nous, on ne sait pas quoi faire. Des familles qui sont dans le besoin, qui demandent peut-être à la Belgique d'accueillir des membres de leur famille handicapés, parce qu'en France, il y a les services dysfonctionnent. En Belgique, c'est pas terrible, parce qu'il y a un problème par rapport à l'euthanasie, enfin, bref, on peut... Mais il y a des problèmes qui deviennent urgents. Il y a des hôpitaux qui ferment, des urgences qui sont sursaturées, 4 à 12 heures d'attente. Voilà. Le modèle dysfonctionne, si modèle il y a. Il y a une personne là qui est au cœur de ce type de problématique, c'est Pierre Durieux. Et je voudrais juste qu'il nous fasse part un peu de son témoignage, responsable de l'association Lazare, et qui nous dit un peu ce qu'il peut déduire de ce qu'il voit, ce qu'il peut déduire de cette expérience, et je le demanderai de généraliser un peu après, de qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela. Pierre, si tu étais ministre des Affaires sociales, tu ferais quoi?
Merci. Avant de répondre à ta question, Henrik, je voudrais raconter en 2 secondes le début de Lazare, parce que dans ce début, il y a évidemment comme le prolongement et comme une explication de ce qu'est l'association Lazare. Ça commence il n'y a pas très longtemps, ça commence en 2006 par un jeune qui a une peine amoureuse. Ce jeune, c'est Étienne Villemain. Et donc, dans ce dépit amoureux qui est le sien, il va faire une retraite dans le cadre du renouveau charismatique. Et il y a une religieuse qui est là qui lui dit... vous allez tirer une petite citation au hasard dans une corbeille, et puis ce saint va vous accompagner pendant la retraite, et peut-être un peu au-delà. Et lui, Étienne, à ce moment-là, dans son cœur, il paraît que l'autre micro est... dans son cœur, il se dit, eh bien, si je tombe sur Mère Teresa, je m'installe en colocation avec des sans-abri. Comme une espèce de défi, une promesse intérieure. Et il va tirer une petite carte dans cette corbeille, et évidemment, c'est une phrase de Mère Teresa. Cette phrase dit, vous n'êtes pas appelé à réussir, vous êtes appelé à être fidèle. Voilà, c'est ce qui est devenu un peu la devise de l'association. Et Étienne va s'installer dans une première colocation solidaire avec deux autres jeunes de sa génération et trois personnes de la rue. Ça a été le premier appartement à Paris. Et puis de ce premier appartement, il y en a eu un deuxième, un troisième, un dixième, un vingtième. Et aujourd'hui, entre l'APA à Paris, c'est le nom à Paris, l'APA, Association pour l'Amitié, et Lazare en province et à l'étranger, on peut dire qu'il y a 300, 400 personnes qui vivent dans une colocation de ce type. Une colocation de ce type, en deux mots, c'est quoi? C'est en moyenne un appartement, c'est 8 personnes, composées à parité égale de 4 personnes qui ont connu la rue et de 4 jeunes professionnels. Voilà, et ils vivent ensemble. Alors comme l'a très bien dit Henrik, ça me permet, cette petite expérience me donne pas la prétention de refonder le système social, parce que franchement, je saurais même pas le décrire à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelque chose, on l'a dit, qui est difficile à appréhender et peut-être encore plus à refondre. Mais j'entends des choses de mes colocs, je vois des choses dans nos appartements qui me disent quand même quelque chose du système social. Et je voudrais vous partager 9 points. Pour ceux qui prennent des notes, ça aide. 9 points. Premier point. Je pense que notre modèle social, il a besoin de laisser une place à la gratuité. J'en veux pour preuve une phrase de cet homme de la rue qui dit un jour, en fait, c'est une phrase qu'il a dit à Étienne Villemain, justement, lors de la première colocation, qui dit, en fait, tu es la première personne à ne pas être payée pour le faire, qui me parle sans être payé pour le faire. Donc le sentiment pour cette personne de la rue d'avoir été pris en charge, et peut-être même assez bien au fond, il y a des guichets, il y a des assistants sociaux, il y a des médecins, il y a des psys, il y a tout ce que vous voulez, mais en fait il sent bien que tous ces gens-là sont payés pour résoudre le problème, et encore une fois on est content, mais en fait quelle est la place dans notre modèle pour la gratuité, pour le bénévolat, pour cet engagement gratuit? Voilà, c'est une première aspiration. Deuxième point, un modèle qui responsabilise les personnes. Hier encore, j'ai rencontré à Valence un gars qui vit depuis 10 ans dans la rue et qui espère rentrer dans notre colocation de Valence. Et je lui ai dit, mais si tu viens ici, tu seras pas accueilli. C'est pas un foyer d'hébergement, Lazare. Si tu viens ici, tu vas devenir colocataire. C'est-à-dire que tu vas payer un loyer. Ah, mais moi, j'ai pas d'argent, ça fait 10 ans que je suis à la rue. Oui. Mais si tes papiers sont en ordre, tu touches le RSA. Et puis si tu deviens colocataire, tu vas avoir les APL. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, pour parler de choses concrètes, aujourd'hui, quelqu'un qui est sans ressources, qui devient locataire d'un loyer de 300 euros, va recevoir 230 ou 240 euros d'APL. Donc en fait, pour la personne qui a le RSA, elle peut donner 60 euros, 70 euros de sa poche et elle devient locataire. Et en fait, ce système, il est pas mal, faut dire la vérité, parce que le gars... Assez vite, on parle d'ailleurs dans nos apparts, on parle plus d'accueillis ou de volontaires, on parle des colocs, et ils payent tous le même loyer. Alors bien sûr, il y en a un qui est aidé par l'État, mais au fond, ça fait de lui quelqu'un qui est devenu acteur de son destin. Il va recevoir sa quittance de loyer, et plus tard, on peut espérer qu'il trouvera un logement normal. Ça me fait d'ailleurs une petite insiste sur le fait que quand Monsieur Macron et son gouvernement ont diminué de 5 euros les APL... C'est bizarrement passé un peu inaperçu, parce que nous, on est dans un public qui est un peu en deçà des gilets jaunes. Nous, dans nos maisons, il y a beaucoup de gens qui suivent pas trop l'actualité, et puis la hausse du carburant, c'est pas tellement leur affaire, ils ont pas de voiture, vous voyez. Mais par contre, les 5 euros en moins dans les APL, ça, c'était vital. Et en fait, les 5 euros de moins, c'est le paquet de clopes que je vais pas m'acheter, et c'est le truc qui va me faire devenir dingue. Donc c'est un tout petit détail, mais c'est un peu comme le bol de la veuve. Voilà, 5 euros pour la plupart d'entre nous, probablement, c'est pas grand-chose. En fait, pour notre public, ça a pu être parfois assez dramatiquement vécu. Et donc, du coup, moi, je suis assez favorable à ce système des APL et à le maintenir, parce que c'est ça qui permet aux gens de revenir dans un modèle un peu normal. Troisième point, il faut qu'on sorte d'un modèle qui vise inéluctablement à l'autonomie, mais il faut viser bien plus profondément la relation. C'est vrai aussi d'ailleurs des personnes handicapées dont on a déjà un peu parlé. Quand on fait un projet de vie pour une personne handicapée, toujours le graal, c'est l'autonomie. En fait, c'est pas très juste, parce que on voit très bien que l'autonomie, dans un certain nombre de cas, elle aboutit à une forme de solitude. Et je voudrais vous donner l'exemple de Serge. Serge, il est coloc depuis des années chez nous, et il rêve d'un truc, c'est d'avoir un studio dans le sud. Il est coloc à Nantes, et il rêve d'avoir un studio dans le sud. Et un jour, on a permis, accompagné un projet qui lui permettait d'avoir son studio dans le sud, et il est parti. Et un mois après, il a rappelé, et il a dit, mais Pierre, au secours, je veux revenir à la coloc de Lazare, parce que, en fait, j'avais des amis, le matin, j'avais quelqu'un à qui parler, et moi, dans mon studio, je suis tout seul, et je me fais chier comme un rat mort. Enfin, voilà, il le disait comme ça. Je dis des mots volontiers grossiers pour réveiller ceux qui dorment.
Ah, il y en a qui dorment.
Il y en a qui dorment. Non, il y a pas. Non, de moins en moins. Voilà. Et donc, le projet pour Serge, évidemment qu'on est content si Serge a gagné un peu en autonomie, mais ce dont Serge, il a besoin, c'est d'un certain nombre d'amis. C'est d'un réseau d'amitié qui va pouvoir l'entourer et l'aider à se réaliser. Quatrièmement, je voudrais dire un modèle qui encourage à la rencontre. Alors tous ici, on n'est pas appelés à devenir coloc Lazare. Il faut dire la vérité, d'abord c'est réservé plutôt à des jeunes de 25-35. Ensuite, il faut avoir un certain équilibre et puis c'est un engagement qui est quand même assez profond. On peut pas tous faire ça. Mais tous, peut-être, on peut déjà participer à Hiver Solidaire. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une paroisse qui est pas loin, qui propose Hiver Solidaire. Hiver Solidaire, vous savez, ça permet de passer une soirée, une nuit, un petit déjeuner avec 3-4 gars de la rue. Ça, c'est facile. On peut tous peut-être participer à une maraude. L'idée, c'est de proposer un modèle qui encourage à la rencontre. Parce que, évidemment, notre modèle, inéluctablement, il fait des parcs. Donc, on met les gens un peu dans des cases, dans des secteurs, dans des foyers qui vont bien, où on les voit pas trop. Et on s'imagine que ça va bien comme ça. En fait, il faut aider les gens à faire le premier pas, et ce premier pas souvent, bah, c'est une maraude, Hiver Solidaire, une paroisse, des toutes petites choses. J'aime bien moi ce proverbe de, enfin ce dicton ou cet appel de Frédéric Ozanam qui dit tu n'es pas à appelé à aimer les pauvres, tu es appelé à aimer un pauvre. Sous-entendu, commence par un. Parce que c'est vrai, quand on voit toute cette masse, on dit qu'il y a 140 000 personnes à la rue, on parle de 40 000 mineurs isolés. Bon, c'est effrayant, c'est écrasant. Moi, je peux rien faire. Franchement, moi, je peux rien faire. Mais en fait, c'est pas tellement ça qui nous est demandé. C'est est-ce que je peux en aimer un, en parler avec l'un d'entre eux, prendre un café avec l'un d'entre eux, commencer une relation. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et en fait, on voit dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, que ça a toujours commencé par un. Jean Vanier, il commence avec deux personnes qui sortent de l'hôpital psychiatrique et ils fondent le premier foyer. Duc de Alderville, à bras ouverts, c'est avec une personne handicapée de Lourdes. Marie-Hélène Mathieu, avec une personne handicapée, elle commence à se mettre en chemin et c'est le début de Foi Lumière, etc. François d'Assise, c'est le baiser à un lépreux, à ce lépreux-là. C'était pas l'idée de soigner toute la lèpre dans le monde, même si bien sûr on espère que la lèpre recule dans le monde. Et donc, au fond, changer le cœur, un monde à la fois. Moi, c'est voilà une phrase de Jean Vanier qui me porte beaucoup. On le voit aussi avec Lazare. Lazare, c'est tout petit. On est une toute petite association à côté de notre grande sœur, la Caritas. Bon, on est groupusculaire. Mais notre métier, j'allais dire, c'est pas de changer le monde, c'est de le changer un cœur à la fois. Cinquième point, un modèle qui reconnaît la valeur et la capacité de chacun. Je sais plus à qui a dit cette phrase, et si quelqu'un en connaît la référence, elle m'intéresse, mais je l'aime beaucoup. Le pauvre, c'est celui à qui personne ne dit jamais « j'ai besoin de toi ». Le pauvre, c'est celui à qui personne ne dit jamais « j'ai besoin de toi ». En fait, le pauvre, dans la société française, c'est toujours celui, bah voilà, il faut lui donner de l'argent, il faut lui donner un toit, il faut lui donner de la bouffe, etc. À Lazare et ailleurs, on aime plutôt inverser la chose. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que tu peux donner à la maison, à la coloc dans laquelle tu t'installes? Quel service tu peux rendre, aussi infime soit-il? Est-ce que tu peux aider à sortir les poubelles? Est-ce que tu peux aider à distribuer le courrier? Est-ce que tu peux aider à faire la cuisine? Et on dit à toutes les personnes qui arrivent à Lazare, ici, il y aura pas de femme de ménage, il y aura pas de cuisinière, tu n'es pas accueilli, tu es chez toi, et donc il faut que tu rendes un service pour toi, bien sûr, parce qu'il faut que tu manges, mais aussi à la colocation. Et donc, voilà, sortir un peu de l'idée qu'on est face à un usager qui a des droits, ce qui est vrai, on est face à un humain qui a des dons, et qui peut accomplir ses dons pour autant qu'on le lui demande. Mais souvent, on lui demande rien. Voilà. Je pense à Jean-Guilhem Euxéry, vous savez, qui a été une belle figure des captifs, la libération. Un jour, il raconte ça, il dit, un jour, il y a des gars de la rue qui sont venus me voir en disant, on veut devenir brancardier pour Lourdes. Alors Jean-Guilhem Uxéry, il dit, bon, bah c'est bien, il faut vous en parler un petit peu entre vous, hein, parce que ça semble un petit peu déraisonnable, quoi. Et puis finalement, les gars insistent, et puis ils s'organisent, et puis finalement, ils vont aller à Lourdes. Et à la plus grande stupéfaction de tout le monde, les brancardés, les personnes malades elles-mêmes ont dit l'année d'après, mais est-ce qu'on peut avoir les mêmes brancardiers? Parce qu'en fait, ils étaient super, ces gars-là. Et donc, du coup, les gars, ils ont demandé à être brancardés par des gars qui connaissaient la rue ou la galère.
Voilà. Voilà. J'ai dit tout à l'heure donc la phrase de Mère Teresa, vous n'êtes pas appelé à être fidèle, vous n'êtes pas appelé à réussir, vous êtes appelé à être fidèle. Moi, je rêve aussi d'un modèle qui n'ait pas de prétention excessive. J'ai vu d'ailleurs dans notre programme combattre la pauvreté. Bon, c'est bien, on va pas la supprimer non plus. Et à un moment donné, il faudrait pas supprimer les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de nos colocs, on voit qu'on n'arrivera pas à réussir. Réussir à guérir une schizophrénie, une bipolarité, moi, je sais pas le faire. Guérir des addictions extrêmement profondes d'alcool ou de shit ou de tout ce que vous pouvez imaginer, franchement, parfois, c'est illusoire de vouloir le faire. Par contre, même si on se bat, par contre, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à regarder de manière bienveillante la personne, pour savoir que, quoi qu'il en soit, elle est aimée de Dieu. Voilà. Demeurer au fond, demeurer avec celui qui souffre envers et contre tout. Ça, c'est peut-être quelque chose qui excède un peu le modèle social, mais qui devrait être notre modèle à nous. Deux points pour finir.